au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. Chaque année, le vendredi avant Pâques, des millions de chrétiens de par le monde commémorent ce cheminement douloureux effectué par Jésus, le Christ, du moment où il a été condamné à mort jusqu'au moment où il a été mis au tombeau. Et traditionnellement, depuis le XIIIe siècle, ce cheminement s'effectue comme une procession avec 14 étapes qui constituent les 14 stations du chemin de croix. Et il est de coutume de s'arrêter devant chacune d'elles et de méditer sur chaque épisode de la Passion du Christ. C'est pour aider à cette méditation qu'est paru, en cette période pascale 2008, un petit livre intitulé « Le chemin de croix des académiciens » publié par les éditions Bayard. Et pour vous présenter cet ouvrage, j'ai le plaisir de recevoir M. Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment est née l'idée de ce livre « Le chemin de croix des académiciens » Qui en a eu l'initiative ?
C'est une initiative très originale, je ne lui connais pas de précédent. En réalité, c'est la démarche du père Rouget, Mathieu Rouget, qui est le curé de Sainte-Clotilde. Et traditionnellement, le curé de Sainte-Clotilde est en même temps l'aumônier d'une paroisse parlementaire et politique, en raison des institutions politiques qui ont leur siège sur le territoire de la paroisse. Et le père Mathieu Rouget a eu l'idée de mettre en valeur le très beau chemin de croix qui est à Sainte-Clotilde à l'occasion de la célébration du 150e de la fondation de Sainte-Clotilde. Alors je peux vous en dire un mot si vous le souhaitez.
Oui, bien sûr, parce que Sainte-Clotilde, c'est une basilique.
C'est une basilique. C'est une église originale. 150e, ça veut dire 1858. Comment se fait-il que dans ce quartier très ancien de Paris, il y ait une église relativement récente ? C'est une longue histoire. Je ne vous raconterai pas tout, mais on a commencé à parler de l'édification d'une église là en 1825. Et donc, c'est 30 ans plus tard qu'on inaugure l'église. Et au début, on avait imaginé une église néoclassique de style grec. Et puis, 1830 étant arrivé, le romantisme, Notre-Dame de Paris, le style à la cathédrale, on a conçu un projet gothique. Alors, Sainte-Clotilde n'est pas un pastiche d'église gothique. Il y en a d'autres, on en connaît. C'est une création. C'est une création très 19e siècle. Il y a du syncrétisme dans la conception même de Sainte-Clotilde. Il y a une vocation, Sainte-Clotilde, la Clovis, le baptême, le sacre à Reims, la fondation de la monarchie française. Tout ça n'est pas indifférent. Cela a été maintenu à travers tous les régimes, c'est-à-dire Restauration, Monarchie de Juillet, République et Second Empire. Et le dessin de Sainte-Clotilde est une réussite, très 19e siècle, d'intégration d'éléments d'architecture, d'éléments techniques et d'éléments de décoration, de sculpture, qui en font un témoin très vivant et très intéressant de l'architecture et de la statuaire au 19e siècle. Encore une fois, ce n'est pas un pastiche et l'essentiel de la réussite de Sainte-Clotilde, c'est son volume, ses proportions, sa décoration pour partie, parce que pour le reste, ce n'est pas du tout une église très ornée, c'est plutôt une église austère, assez dépouillée, sauf la façade. Mais surtout, elle a une remarquable insertion dans l'espace. C'est-à-dire que les rues autour et le square qui précède Sainte-Clotilde en font un lieu très spécial et très réussi de la capitale.
Sainte-Clotilde se situe dans le 7e arrondissement, non loin en effet de l'Assemblée nationale. Monsieur Debreuil, donc dans cette église Sainte-Clotilde dont vous fêtiez le 150e anniversaire, vous avez donc fait un chemin de croix pour les académiciens, vous leur avez proposé une cérémonie, vous les avez invités à participer à cette cérémonie ?
Ça s'est fait tout seul. Le père Rouget a été à l'origine de la démarche. Il a consulté un ou deux académiciens les plus proches, résidant sur le territoire de la paroisse. Il a cité Maurice Druon et moi-même. Et il a proposé à un certain nombre de membres de l'Académie française d'écrire un texte qui commente chacune des stations du chemin de croix de Sainte-Clotilde, qui est un beau chemin de croix en pierre sculptée, en mi-relief, relief assez haut, et qui est l'œuvre pour les 6 ou 7 premières stations de Pradier, et pour un successeur de Pradier, un peu dans le même style, mais peut-être moins pur et moins élégant pour les stations suivantes. Et alors, la manière d'illustrer et de commenter ce chemin de croix, c'était de demander à des académiciens de livrer leurs réflexions, leurs commentaires.
Quels sont les académiciens qui ont participé ?
Alors, la liste des académiciens qui ont participé dans l'ordre alphabétique, Jean-Pierre Engremy, c'est-à-dire Pierre-Jean Rémy, Jean-Denis Bredin, votre serviteur, Alain Decaux, Maurice Druon, Dominique Fernandez, Max Gallo, le cardinal Jean-Marie Lustiger, Pierre Mesmer, Michel Mort, Jean d'Ormesson, Pierre Rosimbert, Jean-Marie Roire, Michel Serre, Frédéric Vitoux. On observera que dans cette liste, 2 sont décédés. Le cardinal Lustiger et le chancelier Pierre Mesmer. C'était particulièrement émouvant de connaître le texte de Pierre Mesmer rédigé avant sa mort. Il a choisi la station qu'il voulait commenter, c'est celle de Simon de Cyrène. Pourquoi ? Parce que Simon de Cyrène était un centurion et qu'il venait de Cyrénaïque et que Pierre Mesmer a combattu en tant que centurion en Cyrénaïque et qu'il a dit qu'il avait, quand il combattait dans le désert, il a pensé à Simon de Cyrène.
Oui, c'est très émouvant, en effet.
Le cardinal Lustiger, lui, n'a pas rédigé un texte, mais a livré une méditation qu'il avait faite auprès d'un prêtre en très mauvaise santé et une méditation qui porte sur la Mater Dolorosa, très émouvante également, c'est-à-dire le visage de la Vierge auprès de son fils mort.
Et vous-même, quelle station avez-vous choisi, monsieur le chancelier ?
J'ai choisi la 6e station, la Sainte Femme, que l'on appelle Véronique, qui tente un linge, un voile, pour essuyer la sueur et le sang du Christ. 6e station, donc c'est à peu près au milieu du parcours, et c'est un geste secourable.
C'est l'attrait du linceul et de tout son mystère qui vous a attiré, ou est-ce une autre raison ?
Je le dis dans le texte que j'avais écrit. Là, c'est un geste de compassion, c'est un geste de femme qui secourt un condamné dans son supplice. C'est un geste qui a une signification, à mon avis, qui peut être reportée de nos jours, c'est-à-dire que cette femme, Véronique, recueille l'image par un phénomène miraculeux. Le visage du Christ s'est imprimé sur le voile, il volto santo, c'est une liturgie ancienne, datant du XIVe ou même avant, XIVe siècle, qui a un côté franciscain, n'est-ce pas ? Et elle transmet l'image. Et donc, c'est une réflexion sur l'image, en réalité, que j'ai voulu mener. Pour aboutir à la conclusion que l'image est extrêmement importante, elle a été illustrée par tant d'artistes dans tous les domaines, la sculpture, la peinture, les enluminures, la statuaire, les vitraux, etc. Et que l'image est indispensable à nos yeux comme support d'une certaine piété.
Vous n'êtes ni iconoclaste ni protestant en ce sens.
Non, absolument. D'ailleurs, je crois que toute la tradition catholique donne une grande place à l'image. Et cela m'amène à opposer l'image qui corrompt, et qui, Dieu sait, est présente dans notre société d'aujourd'hui, à l'image qui illumine et qui élève, et qui est celle de tant d'artistes à propos de la religion. Je crois que de ce point de vue, il faut considérer non pas que le règne de l'image sous lequel nous sommes aujourd'hui est quelque chose à rejeter, de regrettable, non. Le règne de l'image transmet aussi le meilleur, l'émotion, et qu'il fait partie d'un plan de Dieu sur la terre.
Monsieur le chancelier, je vous propose de lire le texte que vous avez écrit sur cette 6e station, « Véronique essuie le visage de Jésus ». De la foule qui se lamente au passage du cortège, une femme s'avance, étendant un voile, essuie la sueur et le sang du visage de Jésus. Le voile garde, miraculeusement imprimé, la sainte face. Aucun évangile ne mentionne l'épisode, mais un voile est conservé au Vatican depuis le 5e siècle et quatre autres le sont en France et en Italie. C'est alors que le nom de Véronique est donné à la fois au voile et à la femme secourable. Gardons-nous de douter de cette légende, même si l'interprétation élégante qu'en donne Pradier au XIXe siècle est assez traditionnelle, la scène originelle annonce la piété franciscaine et transmet un message actuel. Dans l'affliction où nous plonge le parcours de la Via Dolorosa, cette femme nous rappelle par son geste que si le mystère de la rédemption passe par le crucifiement du Fils de Dieu, il reste que le supplice d'un homme innocent nous porte à un mouvement de pure compassion, pas nécessairement pieuse, comme ce message retentit avec force en notre siècle. Méditons sur ce geste. Il est celui d'une femme. Le Christ penche vers elle son visage. La vie et la passion du Seigneur sont ainsi jalonnées de présences féminines que la peinture a souvent reproduites. Hormis les artistes, notre tradition les a souvent relégués à tort au second rang, peut-être par méfiance à l'égard d'une certaine sensiblerie aujourd'hui envahissante et de ses déviances possibles. Mais les femmes du Nouveau Testament montrent une foi assurée, agissante et jouent un rôle irremplaçable dans la transmission et la réception de l'Évangile. Elles sont les interprètes naturelles des paraboles et des représentations. Notre époque, trop souvent éprise de bruyantes et de vaines médiatisations, devrait retrouver les bienfaits de leur médiation limpide. À la différence du Sueur de Turin, le Valto Santo du Vatican ne fait pas l'objet de reproductions, mais tous deux inspirent la dévotion de la Sainte Face si particulière à la piété catholique. Ainsi, Véronique n'obéit pas seulement à un élan de commisération. Elle recueille une icône, c'est-à-dire, selon la tradition de l'Église d'Orient, un moyen de connaissance, un objet de culte, un instrument de prière et même, en elle-même, une prière. Ce n'est pas tout. La femme pieuse ne fait pas que recueillir, elle transmet l'image. On comprend mieux l'épisode que les quatre évangélistes n'ont pas retenu comme étranger à la révélation, mais qui nous est transmis par la tradition comme annonciateur d'autres formes de révélation par l'image qui nous submerge aujourd'hui. Car l'image, trop souvent corrompt, est aussi l'image qui illumine, celle des vitraux, de la statuaire, des enluminures, des fresques. Sans elle, notre piété vacillerait et peinerait à nous porter à la communication avec le Christ, vers la ressemblance de Dieu qui sont les voies de notre salut. À nous de saisir le message de ce saint voile. Le règne de l'image dans lequel nous sommes entrés fait aussi partie du plan de Dieu sur la terre. Vous avez évoqué tout à l'heure justement ces hauts-reliefs, ces sculptures que l'on trouve dans la basilique Sainte-Clotilde et que l'on doit donc au talent de deux sculpteurs de pierre, Jean-Jacques Pradier ou James Pradier, ça dépend comment on l'appelle, et Francisque ou François Duret, qui étaient tous deux membres de l'Académie des Beaux-Arts au XIXe siècle. Alors, Monsieur de Breuil, on sait que vous êtes particulièrement sensible à la littérature du XIXe, vous avez publié sur cette époque. En est-il de même pour l'art de ce siècle qui vous touche particulièrement ?
Oui, sûrement. J'ai dit que Sainte-Clotilde était une création très de son époque, très 19e siècle. Ce chemin de croix aussi, peut-être plus un classique que Sainte-Clotilde elle-même, mais très daté aussi. Je pense que le 19e siècle a été une très grande période, florissante pour les arts en France. Et sur ce sujet, l'un des académiciens, Pierre Rosaber, a livré sa méditation.
En effet, c'est lui qui fait le commentaire.
il fait le commentaire artistique. Il était bien dans son domaine, n'est-ce pas? Et en plus, peut-être qu'il n'avait pas très envie d'accompagner la méditation ou la prière, mais il a très bien daté les choses. Il faut peut-être noter à ce moment que les contributions des uns et des autres sont très diverses, extrêmement diverses. Et cependant, il y a une homogénéité dans l'ensemble. Des croyants, des non-croyants s'expriment. L'un des membres de l'Académie s'exprime sur une question d'histoire de l'art. C'est en effet une manière de commenter le chemin de croix de Pradier. Et finalement, l'ensemble de ces contributions représente un parcours, un cheminement. Ce parcours, c'est d'ailleurs normal, puisqu'il y a un chemin et que les stations se succèdent les unes aux autres. Mais ce parcours, il emprunte plusieurs registres. Celui de la simple documentation. C'est intéressant de savoir, par exemple, que le geste de Véronique n'est retracé dans aucun des évangiles et que le nom de Véronique n'est apparu qu'au IVe siècle et qu'on conserve des voiles de Véronique dans 4 endroits différents.
Bon, je vois que vous avez étudié la question des linceuls.
La documentation, donc, est intéressante. Alors, suit immédiatement la réflexion sur ce qui est en train de se passer, ce parcours, ce supplice, cette voie au supplice. Puis, on est étreint par une émotion que l'on peut appeler la compassion ou la douleur. Puis vient une vraie méditation qui, pour certains, se prolonge par une prière. On est dans une église et à propos d'une cérémonie, comme vous l'avez raconté, qui se situe à l'approche de Pâques. Mais l'ensemble des contributions représente aussi un chemin, un parcours, dans ce sens qu'elles sont homogènes, elles sont d'une durée à peu près équivalente et cela s'est produit naturellement. Il n'y a pas eu le moindre contact entre les académiciens, ni entre l'initiateur de la démarche et chacun des académiciens. Chacun a remis un texte. Ce texte avait une page et demie pour chacun et que c'est très homogène et cela représente absolument un tableau qui est de la compassion à l'émotion et à la méditation. Et en ce temps, c'est en effet une leçon que l'on peut retenir.
Enfin, c'est Maurice Druon qui termine ce chemin de croix par une jolie formule qui, à ma connaissance, ne se trouve pas dans les 4 évangiles, enfin, à moins que ma mémoire me fasse défaut. Il fait dire à Joseph d'Arimathie, donc celui qui a offert un tombeau tout neuf pour y ensevelir le corps de Jésus et qui découvre que finalement ce tombeau est vide, il lui fait dire « Et maintenant commence l'espérance ». Alors, à votre avis, monsieur le chancelier, le christianisme vous apparaît-il comme une voie d'espérance et de salut à la fois individuel et pour le monde ?
Oui, je crois que c'est en effet l'une des leçons que l'on peut retenir, qui est à la fois religieuse, mais qui est aussi historique, et sur laquelle Jean d'Ormesson s'est arrêté aussi. Jean d'Ormesson dit un peu la même chose, l'histoire du monde se sépare en deux, et lui a choisi de commenter la 12e station. Jésus meurt sur la croix. Et pour Jean d'Ormesson, l'histoire du monde se partage en deux, avant et après. Et donc c'est la même idée, commence le moment de l'espérance en effet.
Espérons alors, gardons l'espérance pendant cette période de Pâques. Il faut dire aussi un tout petit mot sur ce livre publié par les éditions Bayard. Il est fort joliment mis en page. Il a une couverture très belle, glacée, avec une jolie impression. Et à l'intérieur, les couleurs sont judicieusement choisies. Les représentations, qui sont pas tout à fait en sépia, mais qui sont sur un fond de couleur uniforme, tout cela fait, comme vous le disiez, une belle harmonie, un livre qui est une belle harmonie, qui lui-même prête à la méditation. C'est un bel objet, n'est-ce pas ?
Tout à fait. Ajoutons peut-être, si vous le permettez, l'éclairage des bas-reliefs ou moyens-reliefs parfaitement réussi, qui fait que les stations, les différents tableaux des stations apparaissent ici en pleine lumière, peut-être plus clairement dessinés, détourés, que lorsqu'on les voit en réalité dans la pénombre de Sainte-Clotilde. L'éclairage est parfaitement réussi.
Je vous propose maintenant d'écouter le texte de Mgr Lustiger. Le cardinal Lustiger est décédé en août 2007. Il n'a donc pas pu voir la publication de ce livre. Je rappelle qu'il avait été élu à l'Académie française en 1995. on a repris de lui un texte pour la 13e station. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Voici ce texte. Permettez-moi une confidence. Je rendais visite à un prêtre infirme, muré depuis de longues années dans un silence inexplicable. Il n'adressait plus la parole à personne, pas même à ses proches qui le soignaient. En tête à tête, à plusieurs reprises, je lui parlais du mieux que je pouvais, ne sachant s'il m'entendait ou me comprenait. Un jour, il sort brusquement de son vêtement son poing fermé, il l'ouvre et c'est son chapelet qu'il me montre. Il me le met de force dans mes mains. J'ai d'abord hésité, n'était-ce pas un geste de révolte devant la douleur et la souffrance? Voulait-il me remettre ce chapelet dont il n'avait plus que faire? La vérité est la meilleure des guérisons et la seule digne d'un homme et d'un prêtre. Refusez-vous de prier ? Lui ai-je demandé. À ce moment, j'ai vu cet homme, qui ne communiquait plus avec personne, secouer la tête avec une force incroyable en signe de dénégation. J'ai compris que, me mettant le chapelet dans les mains, il me confiait à mon tour cette mission de prier avec lui, pour lui et pour l'Église. J'ai essayé alors de dire à haute voix ce qui me venait au cœur pour cette offrande de sa vie sacerdotale. J'ai pensé en cet instant à la Pietà que nous avons sous les yeux, son sacerdoce muet et humainement stérile, cette lente enfoncée dans les ténèbres et le silence était habitée par la prière sacerdotale d'intercession qui est en même temps la prière mariale, non pas une mort, mais un enfantement à la vie. Cardinal Jean-Marie Lustiger. Et je vous rappelle que Chemin de croix des académiciens, présenté par le cardinal Jean-Marie Lustiger, est paru aux éditions Bayard.